21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Voici Wagon Livre, votre émission littéraire, comme chaque mercredi à la même heure sur votre radio locale. Ce soir, nous allons parler de Winston Churchill. En effet, le 21 février dernier, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec François Kersaudy. François Kersaudy est effectivement le biographe, le spécialiste incontesté de Winston Churchill. Et François Kersaudy fait sortir, dans une version revue et augmentée, sa biographie de Winston Churchill aux éditions Talendier. Churchill, un personnage hors norme, soldat, correspondant de guerre, champion de polo, député, ministre, chancelier de l'échiquier, premier ministre et prix Nobel de littérature. C'est tous ces aspects que nous essaierons ensemble avec François Kersaudy dans une poignée de minutes de revisiter à bord de Wagon Livre. Mais une fois n'est pas coutume, on commence cette émission par une pause musicale et on se retrouve juste après avec notre invité François Kersaudy, qui est spécialiste d'histoire diplomatique et militaire et qui est notamment l'auteur chez Talendier de Churchill contre Hitler. François Kersaudy, qui a retraduit et commenté les mémoires de guerre de Winston Churchill. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion.
Loin de s'aimer assez fort pour nos corps en désaccord, peu importe fille ou garçon, tant qu'il est de saison. Loin de sentir sous ta peau un cœur au triple galop, dormir sur le canapé pour ne pas y penser.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Bonsoir François Kersaudy.
Bonsoir.
Alors François Kersaudy, historien, spécialiste des questions militaires et diplomatiques et surtout, j'allais dire, biographe de Winston Churchill. Votre biographie qui date reparaît aux éditions Talendier dans une version revue et augmentée. Alors il y avait encore des nouveautés à apporter sur la vie et l'œuvre de Winston Churchill ?
Oui, il y avait bien sûr des choses nouvelles et puis il y avait un intérêt nouveau aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on m'avait limité en taille en disant que les Français ne s'intéresseraient que très modérément à Churchill. Déjà, même au départ, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour deux biographies de Churchill. Bon, là, j'ai négligé. Mais il faut bien voir que Churchill, comme De Gaulle d'ailleurs, n'ont été redécouverts qu'au début des années 2000. Et donc, pour des raisons qu'on définira peut-être plus tard, mais enfin, c'est un fait. Et donc, il n'y avait pas tellement de place, on était restreint. Après, à partir des années 2006-2010, on pouvait commencer à s'étaler un petit peu et surtout à étaler le personnage qui le méritait largement. Par conséquent, notamment sur les années de guerre, sur les années d'après-guerre aussi, il y avait énormément de choses qu'on pouvait dire. Et si on vous laissait la place, évidemment, on pouvait approfondir à loisir le personnage qui le mérite amplement.
Winston Churchill est né le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim. Il mourra en 1965 à l'âge de 90 ans. Et il faut dire que Churchill est l'héritier d'une famille qui n'est pas banale dans l'histoire du Royaume-Uni.
Oh que oui, son ancêtre, c'est le duc de Marlborough, John Churchill, le premier duc de Marlborough. Donc, par son père, il est descendant d'une illustre famille, ce qui va déterminer d'ailleurs à la fois sa vocation et sa carrière. Il était persuadé qu'il avait hérité du génie stratégique de son illustre ancêtre Marlborough, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, mais l'essentiel était qu'il le croit.
En tout cas, une enfance avec des parents qui ne s'intéressent pas du tout à ce fils, des parents absents, hein, des souvenirs d'absence surtout, en fait, de la part de Churchill
oui,
à l'égard de ses parents.
Absolument. Oui, oui. Alors, sa mère est très frivole, son père est absorbé, entièrement absorbé par la politique, donc on ne s'occupe pas de lui. Mais à l'époque, les habitudes voulaient que, dans ces cas-là, on engage une nurse, ce qu'ils ont fait. Et le hasard a fait qu'ils en ont engagé une excellente, une certaine Mrs. Everest, un nom tout à fait à l'échelle de la tâche qui l'attendait. Et cette Mrs. Everest lui a servi en quelque sorte de tuteur de résilience, pour reprendre les paroles du bon docteur Cyrulnik. Et c'est grâce à ça que Churchill a été Churchill. Mais il y a d'autres raisons. Il y a l'hérédité, bien sûr. Il y a les relations de son père et de sa mère. Il y a l'éducation qu'il reçoit à Harrow, en particulier. Il y a aussi ses propres dons qui sont quand même assez vastes, il faut le reconnaître. Mais c'est la combinaison de tout ça qui fait Churchill.
Churchill avait un bégaiement. C'est un problème de son enfance qu'il a corrigé plus tard.
Oui, non seulement il bégayait, mais en plus il avait un défaut de prononciation, ce qu'on appelle un lisp, une sorte de zézéement, pas tout à fait ça, mais il prononce les S comme des cheux. Et ce n'était pas un très bon départ pour un politicien. Mais il a su corriger, il avait des efforts féroces pour corriger cela. Et, bon, le défaut de prononciation, il ne l'a jamais corrigé. Mais c'est devenu une marque de fabrique, donc c'était plutôt bien. Par contre, le bégaiement, il s'en est débarrassé. Oui.
En 1888, donc, alors qu'il est nul en latin, que son français est fantaisiste, qu'il n'a pas du tout les mêmes goûts que ses camarades d'école, hein. Par exemple, il méprise le cricket, le football, lui,
oui,
il aime l'équitation,
oui.
Il aime ses chiens, il aime ses timbres, son élevage de verre à soie, et il fume déjà comme un sapeur, hein, parce
et
que
il boit
franchement,
comme un trou.
Et ça picole, pardonnez-moi l'expression, mais chez les Marlborough, ça picole, il y a une hérédité alcoolique chez les Marlborough. Hein.
Absolument.
Et les enfants de Churchill, il y aura aussi, je crois, une fille alcoolique et des gros
et
problèmes.
Hélas, il y en avait plus d'une, oui. Il y avait
y a
deux.
Diana qui se suicidera.
Et le fils aussi, donc oui. Ça fait trois. Trois sur cinq. Bon, il y en a une à qui ça a été épargné parce qu'elle est morte en bas âge. Et finalement, la seule qui s'en est tirée, c'est la fille cadette, c'est Mary. Parce qu'elle, ayant vu l'exemple de son frère et de ses deux sœurs, ben, elle ne buvait pas du tout.
Alors, Churchill est tout de même un mauvais élève. Néanmoins, il a une mémoire prodigieuse.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas un mauvais élève. Il a exagéré ça énormément dans ses mémoires. C'est une des choses que, voilà, on dit quand on cherche du nouveau, ben on trouve du nouveau, parce qu'on l'a cru sur parole, en fait, quand il disait qu'il était un cancre. Mais en retrouvant ses bulletins scolaires, on s'aperçoit que ce n'était pas un cancre du tout, du tout, du tout. Et par conséquent, comme beaucoup d'hommes d'État ou de gens célèbres, ils insistent sur leur parcours de cancre, justement, pour pouvoir montrer à quel point, par la suite, ils ont réussi.
En tout cas, le père ne s'intéresse pas à l'éducation de son fils. Sa maman, vous l'avez dit, elle est frivole, elle collectionne les amants. Néanmoins, le gros avantage pour le jeune Winston Churchill, que sa grand-mère, d'ailleurs, qualifie de méchant petit bulldog roux.
Petit bulldog aux yeux, oui, petit bulldog au poil roux, oui. Un petit bulldog méchant au poil roux, oui, absolument.
Alors, grâce à sa mère et aux amants de sa mère et aux relations, il va tout de même rencontrer des personnages hauts en couleur. Par exemple, il est aux premières loges sur le yacht royal lors du jubilé de la reine Victoria en 1887. 4 ans plus tard, le comte Kinsky, qui est le préféré de sa mère, l'emmène au Crystal Palace pour assister à la visite du Kaiser Guillaume II. La politique aussi le passionne.
Oh, depuis l'âge de 6 ans, pratiquement. C'est Sébastien Hefner qui a fait un très joli petit livre sur Churchill, mais il y a une faille dramatique, c'est qu'il dit que Churchill a découvert la politique à l'âge de 26 ans. Ah, il s'est trompé de 20 ans. Churchill a découvert la politique à 6 ans. À la table paternelle, depuis sa plus tendre enfance, il a vu défiler toutes les vedettes politiques de l'époque, hein, Gladstone, Balfour, Chamberlain père, Asquith, tous ces gens-là, donc tous les luminaires politiques de l'époque sont passés à la table de son père et lui a écouté leurs conversations. Et puis après, il est les habitants à 10 ans, il faisait l'école buissonnière pour aller les écouter au Parlement. Donc il a vraiment ingéré la politique avec le lait maternel et avec la table paternelle.
Adolescent ou jeune adulte, Churchill préfère une carrière politique ou une carrière militaire ? Quels sont ses vœux ?
Il a toujours voulu faire une carrière politique, mais il pensait au début qu'une carrière... D'abord, il était fasciné par le militaire depuis son plus jeune âge. Notamment, il y a plusieurs raisons, mais c'est Blenheim. Hein. Depuis qu'il a 4 ans, il parcourt ces galeries de Blenheim, ce fabuleux château quand même. C'est une Versailles à peine...
Château familial, hein,
familial du grand-père. Et il voit là-bas des armes, des armures, des tableaux de guerre à n'en plus finir, et on lui explique que voilà quoi, c'est son glorieux ancêtre qui a accumulé tout ça, et donc c'est son univers, c'est un univers martial en fait, hein, et donc il veut imiter son ancêtre. Il pense qu'il a le génie de ça, et le militaire le fascine, effectivement, les parades, tout ça, ça, voilà, ça le fascine. Et en même temps, il a un tempérament extrêmement, un goût du risque. Ça lui donne des sensations. Il est fasciné par le risque. Il veut aller là où on se bat, il veut aller là où il y a du danger. Et donc, il veut à la fois avoir ces sensations que procure une carrière militaire et le danger. Et il pense que ça va le ramener à la politique. Mais il a toujours voulu être politicien, à la fois parce que... Mais il voulait être un politicien qui puisse tout abandonner de temps en temps pour aller se battre, puisque ça lui procurait des sensations. Et donc, il voulait qu'on dise qu'il avait été un héros comme son ancêtre John Churchill, premier duc de Marlborough. Et donc, en même temps, il avait cette impression que pour entrer au Parlement... S'il voulait faire de la politique, il fallait qu'il entre au Parlement, ça, il n'y avait pas de doute. Mais pour entrer au Parlement, il fallait qu'il se distingue à la guerre, comme ça il aurait des médailles, et il pensait que les médailles lui ouvriraient la porte du Parlement. Pourquoi il a pensé ça? Ça, on n'a jamais très bien compris. Qu'est-ce qui lui donnait l'impression? Tout simplement parce qu'on aurait parlé de lui, et on pensait que, et il pensait qu'étant considéré comme un héros, eh bien il pourrait, grâce à ses médailles, entrer au Parlement. Comme il n'avait pas de ressources, normalement, ceux qui entrent au Parlement, ils avaient de l'argent. Les parlementaires n'étaient pas rétribués au début, et quand ils l'ont été, c'était une misère. Donc il fallait qu'ils trouvent quelque chose qui remplace l'argent pour le faire entrer au Parlement. Et donc ils se disaient, en étant un héros de guerre, je pourrais entrer au Parlement. Bon, après, il s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple et qu'en plus, étant officier, il fallait qu'il paye pour aller se battre. Parce qu'un officier, il avait à peu près 550 livres, ce qui à l'époque une très grosse somme de dépenses par an, et lui était payé 110 livres. Et donc, comment est-ce qu'il allait faire pour trouver la différence ? Et la seule façon qu'il a trouvé de combler le trou, c'était de se faire journaliste. C'est-à-dire que quand il allait en campagne, eh bien, en même temps, il était correspondant de guerre. Et très bien rétribué, parce qu'il écrivait très bien. Et donc, dans n'importe quelle armée, si vous voulez, quelqu'un qui est en même temps officier et qui écrit dans les journaux, on le met au trou. Il ne peut pas se permettre, surtout quand dans ses articles, il commente la stratégie de ses généraux en disant bah « oui, c'est mal fait, c'est pas comme ça que ça devrait se faire, etc. » Normalement, on vous met en prison. Mais là, on ne pouvait pas. D'abord, il s'appelait Churchill. Et Churchill, en Angleterre, c'est un peu comme un Bonaparte en France. On ne met pas un Bonaparte en prison quand on est militaire, parce qu'on se ridiculiserait. Et bien là, c'est pareil. Un général anglais n'aurait pas pu mettre un Churchill en prison, même s'il disait des bêtises dans les journaux. Et puis en plus, sa mère était la maîtresse du prince de Galles. Deuxième raison pour laquelle il était protégé. Et puis la troisième raison, c'est quand même un héros de guerre. Enfin, ce qu'il a fait à la fois en Inde, au Soudan et surtout en Afrique du Sud, c'était quand même assez fabuleux. Enfin, c'était quelqu'un qui était un habitué des actes héroïques. Enfin, il revenait dans la ligne ennemie pour aller chercher les blessés. Il partait le matin avec les avant-gardes, il revenait le soir avec les arrière-gardes. Il chevauchait à découvert dans la ligne de tir. Enfin bon, c'était... Voilà. Donc il y a eu une discrète vengeance. On s'arrangeait pour qu'il ne soit pas décoré, mais on ne pouvait pas faire plus.
Alors, effectivement, il y a Cuba, il y a ensuite la période en Inde. Alors, en Inde, il s'ennuie énormément. Là, il en profite pour se cultiver, mais il ne supporte pas ce train de vie un petit peu trop confortable, trop moelleux, des officiers, il s'ennuie.
Et il s'arrange pour se faire affecter sur la frontière du Nord-Ouest, où on se bat. Et il y va d'abord en tant que correspondant de guerre et puis ensuite en tant qu'officier, parce qu'on manque d'officiers, parce qu'il y en a plusieurs qui se font tuer, donc il est recruté, donc il est officier et correspondant de guerre. Et là, quand même, il impressionne son monde. Et puis après, il va au Soudan, là aussi, on ne veut pas de lui, mais il y va quand même. Et puis il va en Afrique du Sud, pareil, on ne veut pas de lui, il y va. Et comme c'est un habitué des actions héroïques, ma foi, il fait parler de lui. Et comme en plus, il écrit dans les journaux, évidemment, comme correspondant de guerre, on n'ignore pas ce qu'il fait. Et donc, il a une chance de se mettre en avant. Il devient très vite célèbre. Mais pendant toute sa vie, il y aura ces trois carrières. Il hésitera entre les trois carrières. Le journaliste, écrivain, historien d'un côté. Le député, ministre, premier ministre de l'autre. Et puis d'un troisième côté, l'officier. Qu'il faut retenir par les Basques parce qu'il a toujours envie d'aller se battre, même quand il est Premier ministre. Quand il est Premier ministre en 1942, il faut le retenir, même en 1941, retenir à deux mains parce qu'il veut démissionner et aller remplacer les généraux au Moyen-Orient pour aller battre Rommel.
Si vous le voulez bien, François Kersaudy, on marque une nouvelle pause musicale. Je rappelle que vous faites paraître Winston Churchill, Le pouvoir de l'imagination. C'est une nouvelle édition revue et augmentée. C'est aux éditions Talendier. Tout sur la vie et la carrière extraordinaire de ce personnage hors norme qu'est Winston Churchill. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité. C'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Down with this shit, and I won't put my like above my door. I'm in love and always will be.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Je vous avouerai, François Kersaudy, que de Churchill, si vous voulez, je connaissais que l'image du Churchill Premier ministre entre 40 et 45. Et en découvrant effectivement qu'il est d'un courage physique extraordinaire, comme vous l'avez dit, il est fasciné par ce que Churchill appelle les yeux étincelants du danger. C'est un homme qui a fait preuve d'une bravoure incroyable. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, on le retrouve en tant que militaire, en France, sur le sol de France, où là aussi, il impressionne tout le monde, il n'a pas peur des bombes, il ne se cache jamais, les balles sifflent au-dessus de sa tête, et lui, il est debout, droit, c'est extraordinaire.
C'est exactement ça, et il a eu à la fois cette façon de braver les balles, les autres se cachent et sont blessés, lui ne se baisse jamais et ne l'est pas, c'est pas juste, hein. Il y a des balles dans le casque, dans la gourde, dans la ceinture, dans les manches, tout ce qu'on veut, mais lui, il n'a jamais rien.
Et François Kersaudy reconnaissait qu'il a un bel alignement de planète, Churchill. Il a beaucoup de chance, ou il a la baraka.
Il a la baraka. Il a la baraka. Il s'en était fait une philosophie, d'ailleurs, c'est lui qui avait dit dans ses Mémoires de jeunesse qu'il avait écrit en 1930, mes jeunes années, il a écrit « Il faut jamais oublier que lorsqu'un malheur arrive, il peut fort bien vous préserver d'un malheur bien plus grand, ou bien que lorsque vous faites une grande erreur, elle peut fort bien vous servir mieux que la décision la plus avisée. » Et ça, c'est l'histoire de sa vie, ça. Il a passé sa vie à avoir des malheurs qui lui ont porté bonheur et à faire des erreurs qui ont tourné à son avantage. Regardez la bataille d'Angleterre, c'est quand même fou. Il a fait une énorme erreur et c'est grâce à ça qu'il a gagné la bataille.
Donc, je m'arrête juste sur le Winston Churchill de la Première Guerre mondiale. Mmh. Il voyage avec sa baignoire, sa chaudière, ses caisses d'alcool, parce que
il emménage dans les tranchées avec sa baignoire, sa chaudière et ses caisses d'alcool, ce qui le rend d'ailleurs très populaire.
Il est très british. Finalement, il incarne cette fantaisie toute britannique.
Ben, il est pas.
La fantaisie, je ne sais pas.
Les Britanniques ne le reconnaissaient pas vraiment comme un exemple typique. Ils le trouvaient trop américain.
Ah.
Et ben, effectivement, il avait un côté américain. Il faisait un grand nombre de choses qui, pour les Anglais, n'étaient pas dignes d'un gentleman. Donc,
mais c'était de la provocation. Il y a un côté.
Non, c'était son caractère.
C'est son caractère.
C'était son caractère. C'était un grand excentrique. Et il ne voyait pas de raison pour déguiser sa façon de vivre, sa façon de s'exprimer. Voilà, c'est quelqu'un qui avait finalement se désintéressait de l'opinion des autres. Ce qui l'intéressait, c'est son opinion à lui. Et ce qui en faisait d'ailleurs un politicien totalement atypique. Évidemment, le politicien, normalement, hein, on connaît ça en France, il va essayer de savoir quelle est l'opinion publique pour être à la remorque de l'opinion et se faire réélire. Lui, c'est l'inverse. C'est si l'opinion publique pense ça, mais que moi je pense le contraire, eh bien c'est l'opinion publique qui a tort. Hein, et je vais attendre qu'il change d'avis parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc l'opinion publique est pour le désarmement, Churchill est pour le réarmement. L'opinion publique est pour l'apaisement, Churchill est pour la confrontation. L'opinion publique est pacifiste, lui ne l'est pas. Et après, elle est belliciste, lui pas du tout. Mais par contre, une fois que la guerre est déclarée, il est belliqueux, alors que les autres ont peur. Donc il est tout le temps à contre-courant.
Enfin, il fait la guerre, mais pour trouver la paix.
Oui, absolument. Et une fois la paix rétablie, il est pour le relèvement de l'ennemi. On voit bien avec l'Afrique du Sud, hein, les Boers sont vaincus. Il se fait l'avocat des Boers pour le relèvement de l'Afrique du Sud. Les Allemands sont vaincus, il se fait l'avocat des Allemands. Et voilà, il faut les réintégrer, etc. Il faut relever l'ennemi vaincu.
François Kersaudy,
d'abord.
Oui. On avance un petit peu dans le temps. Mmh. Arrivons en 1940. En mai 1940, Churchill est appelé pour former le gouvernement.
Oui, alors ça, c'est une chose. Personne, dans les films, dans les documentaires, personne jamais n'a expliqué pourquoi il est arrivé au gouvernement. C'est pourtant essentiel. et c'était pas gagné. Dans les films, on voit juste un tout petit passage où il y a écrit où le commentateur anglais de l'époque dit au revoir Monsieur Chamberlain, bonjour Monsieur Churchill. Mais c'est un peu court quand même. Et je me souviens que moi-même, quand j'étais au lycée, je ne comprenais pas parce que personne ne nous expliquait comment il se faisait qu'il est arrivé au pouvoir, alors que c'était Chamberlain le Premier ministre. Pourquoi Chamberlain a démissionné? Pourquoi on a choisi Churchill? C'est jamais expliqué. Rien n'obligeait Chamberlain à démissionner. Donc pourquoi? Eh bien ça, dans les films, on ne le voit jamais. Et à chaque fois, quand j'étais conseiller pour certains films, à chaque fois, je disais, mais écoutez, là, vous passez 10 minutes sur l'enterrement, c'est trop, on n'a pas besoin de voir tous ces gens affligés, assistants, etc. C'est trop. Prenez une minute de ce temps-là pour expliquer en deux phrases pourquoi Churchill est arrivé au pouvoir. C'est quand même essentiel, puisque tout le reste en a découlé. Eh bien, on n'y est jamais arrivé. C'est quand même fabuleux.
Alors, le 13 mai 1940, devant la Chambre, il a... C'est cette phrase désormais célèbre, « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, de la sueur et des larmes ». Et alors François Kersau dit, en vous lisant, j'apprends que finalement, Churchill n'a pas vraiment inventé cette phrase, que d'autres l'ont déjà utilisée en Italie et que Lord Byron l'aurait même déjà utilisée.
Avant, absolument, oui, tout à fait.
On ne prête qu'aux riches, décidément.
C'est Garibaldi qui l'avait dit à ses chemises rouges, donc 80 ans avant. Mais qui s'en souvenait? Qui avait la mémoire de Churchill? Personne. Donc on a trouvé ça extraordinaire. Surtout qu'il l'a dit au bon moment, évidemment. Ce genre de choses. Et nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les champs d'aviation, nous nous battrons dans les champs, etc. Et nous nous battrons dans les collines. Et ben, ça, c'est Clémenceau.
Oui,
c'est...
Nous nous battrons je sur fais la guerre,
nous
je fais la guerre.
Sur la Garonne, oui, je fais la guerre, etc. Bon, ben oui.
Alors justement, il y a une amitié de Churchill pour la France. Churchill est francophile, c'est incontestablement. Et Churchill est désespéré lorsque le pouvoir en 1940, et l'armistice est signé par Pétain, pour Churchill, c'est une catastrophe parce que la France n'est plus du côté du camp des libertés.
Oui, Churchill est désespérément francophile. Ces deux héros, en dehors de son ancêtre Marlborough, c'était Jeanne d'Arc et Napoléon. Vous remarquerez que quand même pour un Anglais, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux, même s'il est à moitié américain, ça surprend quand même. Mais pour lui, la France, c'était le berceau de la civilisation, c'était tout ce qui était admirable pour lui, y compris évidemment le champagne et le cognac. Tout ce qui est admirable, c'est en France, évidemment. Voir la France quitter l'Alliance, pour lui, c'était un déchirement. Et comme c'était quelqu'un de qui avait énormément d'imagination, et comme il ne voulait pas se rendre aux réalités, il a créé une fiction, et sa fiction, c'était un certain De Gaulle. Et c'était l'homme du destin. Il s'est planté devant lui, hein, 13 juin 40 à Tours, et il lui a dit l'homme du destin. C'est quand même fabuleux.
Alors, De Gaulle ne se souvient pas de cette parole.
Non, on lui a demandé, il a dit non, je ne m'en souviens pas, mais vous savez, Churchill, c'est un romantique. Mais oui, c'était un romantique, oui. Il avait eu cette vision, c'est un propagandiste de génie surtout. Les Anglais risquaient de se décourager. Pendant la Première Guerre, si l'Angleterre n'a pas été envahie, c'est parce que la France a tenu. Pendant la Deuxième Guerre, d'un seul coup, quelques semaines de guerre, boum, de guerre chaude, et d'un seul coup, la France s'écroule. Ben, le peuple pourrait être tenté de vouloir capituler. Et Churchill leur présente cette fiction, il leur présente ce général de Gaulle, et il leur dit, voilà, la France n'a pas capitulé, vous croyez qu'elle a capitulé? Pas du tout, la France continue la guerre en la personne de ce général de Gaulle qui a une stature, qui a un passé, qui a une voix, qui a un nom, ce de Gaulle, c'est quand même fabuleux. Et donc il le montre, il engage un agent de publicité pour en faire la publicité, justement, dans tout le royaume et même dans l'Empire. Il le montre avec le roi et la reine, ce qui est la meilleure façon, évidemment, de le rendre populaire parmi la population, etc. Bon, De Gaulle n'aime pas trop. Et De Gaulle, à cette époque-là, il trouvait que la publicité, c'est vulgaire. Donc, Churchill va me lancer comme une savonnette. Oui, évidemment. Mais c'est comme ça que ça marche.
Alors, François Kersau dit, il faut tout de même qu'on s'arrête sur l'affaire de Mercier le Kébir. Mercier le Kébir, c'est un port dans le golfe d'Oran où est stationnée la flotte française et cette flotte...
Une partie, oui.
Et que va devenir cette flotte après l'armistice? Est-ce qu'elle tombe entre les mains de l'Allemagne, est-ce qu'elle tombe entre les mains du régime de Vichy? C'est un vrai problème, cette flotte à Merselkébir.
Oui, il faut voir le contexte. L'Angleterre est menacée d'invasion. On compte chacun des navires qui pourra être utilisé pour envahir l'Angleterre. Bon, maintenant, on sait que ça n'a pas fonctionné, mais au début de juillet, personne ne misait plus de quelques centimes sur les chances de survie de l'Angleterre. Ils avaient tout abandonné à Dunkerque, ils n'étaient pas réarmés, on retirait les canons des musées de la Première Guerre, il faut voir. Hein. Et donc, on s'attendait, c'était quand même l'armée la plus formidable d'Europe, la plus redoutable et qui avait tout gagné, qui avait tout écrasé en France. Donc on s'attendait à l'invasion. Et donc à ce moment-là, évidemment, toute unité navale supplémentaire, c'était un clou enfoncé dans le cercueil du Royaume-Uni. Et donc il fallait absolument soit les prendre, soit les réduire à l'impuissance, ces unités navales. Donc à Alexandrie, dans les ports anglais, on a réussi soit à les neutraliser, soit à les reprendre, mais à Toulon on pouvait rien faire, et puis à Merselkébir, eh bien il fallait d'une façon ou d'une autre à Merselkébir que cette flotte soit inoffensive. Seulement là où les choses ont été n'ont pas fonctionné, si vous voulez, c'est que l'amiral Gensoul s'est vu présenter six possibilités. Soit il envoyait ses navires en Angleterre sans leur équipage, soit il envoyait avec l'équipage qui se ralliait, soit il l'envoyait aux Antilles, parce que là, ça sort de portée des Allemands, soit il l'envoyait aux États-Unis, si c'était neutre. S'il refusait tout ça, il acceptait de saborder ses navires. Et si en plus il refusait de saborder ses navires, ça voulait dire qu'il voulait laisser à la portée des Allemands. Et à ce moment-là, c'était le sixième terme de l'ultimatum, à ce moment-là, effectivement, les navires devraient être détruits. Et ce qui a effaré les Anglais, c'est que l'amiral Gensoul, faisant son rapport à Toulon et à Brest, n'a envoyé que deux des termes de l'alternative, se saborder ou être bombardé. Et c'est pour ça que de Gaulle a dit par la suite...
qu'il comprenait, enfin qu'il aurait fait la même chose.
À la place des Anglais, j'aurais fait ce qu'ils ont fait. Ah oui.
Mais il y a tout de même 1300 marins français tués.
Oui, mais de Gaulle avait dit aussi, celui qui a eu tort, c'est cet imbécile de Gensoul. Il n'avait qu'à dire qu'il allait partir et aller à la Martinique, effectivement, c'est ce qu'il aurait dû faire. Sauf que, mais à ce moment-là, sa carrière, c'est surtout sa carrière qui comptait avant tout.
François Kersaudi, merci pour ces explications. Si vous le voulez bien, on marque une nouvelle pause musicale au cours de notre échange. Je rappelle votre biographie, Winston Churchill, Le pouvoir de l'imagination, nouvelle édition revue et augmentée, disponible en librairie aux éditions Talendier. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio. Nous revenons dans une poignée de minutes avec notre invité.
Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard.
trop tard. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Feels like I've been looking everywhere just to find out that it's you. Comme si j'allais encore ailleurs, voir ailleurs si nous y sommes.
Je te mens, je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je ne suis qu'un homme.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Je rappelle que nous sommes ce soir sur Radio en compagnie de François Kersaudy, spécialiste d'histoire diplomatique et militaire, biographe de Winston Churchill, qui fait paraître chez Talendier donc une nouvelle édition revue et augmentée, Winston Churchill. François Kersaudy, durant la Seconde Guerre mondiale, la grande affaire personnelle de Churchill, c'est la bataille d'Angleterre, c'est-à-dire la volonté de l'Allemagne nazie d'écraser le Royaume-Uni par des bombardements massifs. Encore que, François Kersaudy, j'ai lu que le premier bombardement sur la banlieue de Londres est en fait lié à une erreur de navigation.
Absolument, c'est un accident en fait, c'est un pilote qui a été un pilote allemand de bombardier qui était poursuivi, qui a voulu s'alléger. Et parce qu'évidemment, avec les bombes, on avait moins de chances de s'en tirer. On était plus lourd, donc on était moins rapide. Et il a largué ses bombes sans savoir où il les larguait. Et en fait, c'était sur la banlieue de Londres. Et donc, le résultat, c'est que Churchill a voulu marquer le coup, disant, puisque c'est comme ça, pour le moral de la population, c'était une erreur stratégique, mais enfin, c'était bien joué du point de vue du moral, nous allons bombarder Berlin. Donc il a fait une fois, deux fois, trois fois, mais ça n'avait aucun sens, parce que bombarder Londres depuis les côtes françaises, ça avait un sens. C'était pas loin. Mais bombarder Berlin depuis l'Angleterre, stratégiquement, c'était débile, parce que ça ne pouvait pas fonctionner. Étant donné ce qu'étaient les avions à l'époque et le peu de bombes qu'ils emportaient, eh bien, ce qui s'est passé d'ailleurs, ce qui était prévisible, ce que ces généraux avaient prévu, c'est-à-dire qu'il y avait deux tiers des avions qui ont rebroussé chemin, le dernier tiers a largué ses bombes sur la banlieue de Berlin et a tué trois vaches. Et malgré tout, Churchill s'est entêté. Et c'est parce qu'il s'est entêté que finalement, au bout de trois fois, Hitler a craqué et a dit « Puisque c'est ça, nous allons, pour de bon, bombarder Londres. » Et ça, ça a été le tournant de la guerre. Parce qu'à ce moment-là, la Luftwaffe, l'aviation allemande, s'est détournée de ses missions de bombardement sur les aéroports, sur les radars, là, toute la ceinture d'aéroports et de radars du sud de l'Angleterre, qui est en très mauvais état, et ils se sont mis à bombarder les villes. Et du coup, ça a donné un répit à la RAF, qui a fait grâce à ce répit, a pu faire des cartons et vaincre justement la vie. Donc ça fait partie de ces très nombreuses fois où les erreurs de Churchill ont tourné à son avantage. Il en a même fait une philosophie d'ailleurs.
Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y a la volonté de Churchill de s'allier avec les États-Unis. Alors bien sûr, il y a l'attaque de Pearl Harbor. À partir de là, les Américains comprennent qu'il faut bien se ranger du côté de la Grande-Bretagne. L'idée du débarquement, alors en fait, Churchill, l'idée du débarquement, il l'avait déjà plus ou moins soulevée dès 1917.
Ah, les péniches de débarquement.
Oui.
Oui, les péniches de débarquement, il les avait inventées. C'était un inventeur de génie, Churchill. Hein. Il avait inventé le tank, déjà, et il avait inventé les péniches de débarquement, à proue rabattable, pour faire débarquer des tanks. Et donc, oui, et en même temps, c'était un génie inventif et c'était un stratège inquiétant. Parce qu'il, tout simplement, il n'avait pas de formation stratégique. Il avait été à l'école à Sandhurst, mais à Sandhurst, à l'époque, formait des officiers de cavalerie. Les officiers de cavalerie n'étaient pas jugés assez intelligents pour avoir des cours de stratégie. Ils n'avaient que des cours de tactique. Et donc, il a dû réinventer la stratégie. Et donc, c'était un amateur. Mais comme il a eu beaucoup de chance, à la fois, il était bien entouré. Il avait quand même des chefs d'état-major hautement compétents qui, eux, avaient une formation stratégique. Et puis, une autre chose qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il a bénéficié d'Ultra. Ultra, c'était l'équipe de Bletchley Park qui décryptait depuis avril 1940 toutes les communications allemandes. Et donc, dans l'ensemble des campagnes entre 40 et 45, ces généraux, à commencer par Montgomery, étaient des gens qui lisaient dans les communications allemandes à livre ouvert. Et les Allemands ne le savaient pas. Et par conséquent, toutes les grandes batailles qu'ils ont remportées, et notamment à l'Allemagne, et notamment le débarquement de Normandie, c'était dû à 90% au fait qu'ils connaissaient exactement l'ordre de bataille allemand, les failles de l'armée allemande, et que par conséquent, évidemment, c'était un petit peu comme jouer au poker en connaissant exactement les cartes de votre adversaire. Et ça, évidemment, Churchill en a bénéficié au maximum. Alors, vous pouvez dire, oui, mais c'est grâce à lui que ce système de décryptage a été aussi perfectionné, ce qui est vrai, puisque, comme c'était un organisateur de génie, il a fait en sorte que les gens de Bletchley Park qui décryptaient cette fameuse machine d'encryptage allemande Enigma aient tous les moyens pour faire en sorte que quelques minutes seulement après que les commandants allemands aient reçu leurs ordres, les Anglais recevaient les mêmes. Et évidemment, ça change tout quand vous allez mener une bataille et que vous connaissez les intentions de l'adversaire, le corps de bataille de l'adversaire, ses effectifs, ses failles, ses manques, etc. C'est quand même plus facile de remporter la bataille, c'est logique.
Impossible, François Kersaudy, d'évoquer tous les aspects politiques et militaires de la carrière de Winston Churchill. Néanmoins, je souhaiterais que vous nous donniez un petit mot d'explication sur cette expression du rideau de fer que Churchill va utiliser devant les étudiants de l'université américaine de Fulton, hein, dans le Missouri, en mars 1946. Expression « le rideau de fer » que Churchill va utiliser et qui, effectivement, a été diversement apprécié.
Oui, alors là encore, je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas de lui le rideau de fer, hein, c'est de Goebbels. Mais bon, il avait le génie de recycler les phrases des autres, hein, et surtout au bon moment.
C'était très mal compris, quand même.
C'est-à-dire qu'il a dit tout haut ce qui se murmurait déjà dans les chancelleries depuis près d'un an, c'est-à-dire que les ambitions de Staline représentaient une menace à peine moins grave que celle qu'avait représentée Hitler. Et c'est ce qu'il dit de façon plus nuancée, parce qu'il a quand même affaire à des gens qui ne sont pas très courageux. Et donc, ce qu'il leur explique en gros, c'est que la menace soviétique est très grave, parce que non seulement leurs troupes sont en occupation dans toute l'Europe centrale, mais qu'en plus ils disposent de partis communistes dans tous les pays qui vont faire de la subversion. C'est ce qui est effectivement ce qui va se passer. Mais ce qu'il dit aussi, ce n'est pas du tout un encouragement à déclarer la guerre aux soviétiques, pas du tout. Ce qu'il dit, c'est que, et ce qui est tout à fait juste, ce qui prouve qu'il a compris un petit peu tard, mais il a compris ce qu'était Staline, que ce sont des gens qui ne respectent que la force. Par conséquent, toute capitulation, toute tentative d'apaisement de Staline ne conduira à rien. Et pour se faire respecter de ces gens-là et les tenir en respect, eh bien, il faut justement s'armer et surtout ne pas baisser les bras parce qu'à ce moment-là, on devient vulnérable. C'est ça le discours de Fulton. Et évidemment, on est un peu catastrophé parce que on est en 46, les gens ne veulent pas se remettre dans une optique de confrontation. Et il n'y a que les gens qui sont très bien informés dans les chancelleries, dans les gouvernements, dans les ministères, qui savent que tout ce qu'il dit est juste. Churchill est très bien informé, il a des amis dans les ministères, il sait ce qui se passe. Mais en même temps, ça existe, mais c'est le politiquement correct de l'époque, bien avant qu'on l'invente. Bien sûr, c'est vrai, mais il ne faut pas le dire. Hein? Et donc, sur le moment, et pendant les deux années suivantes, il sera incompris, comme d'habitude, ce qui ne le gêne pas d'ailleurs. Il a passé sa vie à être incompris, et donc, ma foi, c'est pas grave. Et puis après, on s'aperçoit effectivement qu'il avait raison, que ce discours de Fulton était prophétique.
Merci François Kersaudi d'avoir été ce soir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Je rappelle qu'on retrouve en librairie la biographie que vous avez consacrée à Winston Churchill, une biographie dans une nouvelle édition revue et augmentée aux éditions Talendier. Et puis rappelons que le 22 mars prochain, toujours chez Talendier, vous allez faire paraître Le Monde selon De Gaulle. C'est chez votre éditeur Talendier. Voilà. Merci François Kersaudi de nous avoir aidé à saisir celui que De Gaulle appelait le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire, la vie fabuleuse de Winston Churchill. Encore merci François Kersaudi. On marque une dernière pause musicale à bord de Wagon Livre et on se retrouve juste après pour se saluer et pour prendre connaissance du programme de la semaine prochaine.
Bercé par la vague blonde de tes cheveux comme une onde, je crois. Volé au-dessus du monde, mon cœur bat sous tes secondes pour toi. Quand tu pars souvent, je tremble que ma vie se désassemble sans toi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Parler d'amour, ce n'est pas pour moi. C'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Suffire de toi. Tes yeux bleus me font rougir, mieux qu'un mot pour me prédire ma joie. Si un jour tu dois partir, je garderai ton sourire en moi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Te parler d'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois. Ce n'est pas moi. Tant que tu sais. sache tout ce qui s'y forme attache à toi. Pour un peu j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Ce n'est pas moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est pratiquement la fin de ce Wagon Livre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 21h sur Radion. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de vous proposer en nouvelle diffusion des extraits de grandes interviews de l'année 2017 dans le cadre d'une petite rétrospective. En revanche, un rendez-vous très important à noter dans vos agendas, c'est l'invité de Wagon Livre le 28 mars prochain, puisque nous aurons devant ce micro l'occasion de recevoir Tatiana de Ronay. La romancière revient sur le devant de l'actualité éditoriale avec un nouveau roman intitulé « Sentinelle de la pluie » et qui est disponible en librairie aux éditions Héloïse d'Ormesson. Tatiana de Ronay, qui sera d'ailleurs à Dijon le 20 mars prochain au Grand Hôtel de la Cloche, place d'Arcy, à Dijon, donc à partir de 18h30 pour venir présenter « Sentinelle de la pluie ». Parmi les nouveautés que l'on peut trouver en librairie, le nouveau roman de Liliane Mosca, « La vie rêvée de Gabrielle, muse de Renoir », l'histoire d'une petite champenoise qui, à l'extrême fin du 19e siècle, se rend à Paris pour devenir bonne, notamment chez les Renoir, et elle va devenir surtout le modèle du célèbre peintre. « La vie rêvée de Gabrielle, muse des Renoir », le dernier roman de Liliane Mosca disponible aux Presses de la Cité. Dans les nouveautés également, toujours aux Presses de la Cité, le dernier roman de Didier Cornaille, Thibaut Deschouka, dans la collection Terre de France. Et puis en cette année 2018, c'est le 70e anniversaire de la mort de Antonin Artaud. À cette occasion, Laurent Vignat fait paraître aux éditions du Jasmin une biographie romancée intitulé « Antonin Artaud, le visionnaire hurlant » de Laurent Vignat. C'est une biographie à lire comme un roman. On aura d'ailleurs l'occasion de recevoir Laurent Vignat devant le micro de Wagon Livre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Radion. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans Wagon Livre, dès 21h sur votre radio locale. Encore merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.